Ergot Radio.
Vous êtes officiellement sur Ergot Radio, la ZRT en direct de la Galerie de l'Ergue. Aujourd'hui, on a commencé à 9h avec un petit débrief sur ce qu'était la ZRT. C'est-à-dire qu'on est installé là pendant 2 jours pour le séminaire de l'Ergue, After Empire. On a pu entendre un petit montage d'Afrique 50 par René Vautier, fait par Rebecca. Et ensuite, on a accueilli Iziar Ocariz, qui est une crieuse basque venant d'Espagne.
Qui fera sa performance demain à Beaux-Arts à 18h30, dans le cadre aussi du séminaire de l'Ergue.
Voilà, et puis ensuite, Lynn nous a donné un petit avant-goût de la Documenta qui se tiendra cette année en Grèce. Et puis, on a aussi accueilli une nouvelle radio, Radio Triton, qui nous ont fait une petite lecture. Et puis...
On a eu aussi l'interview de Princesse Mansia Mbila, qui est une conteuse, chanteuse et musicienne, qui nous a fait un petit conte en direct. Conte que vous pourrez retrouver sur la page de Ergot Radio.
Très bien. Est-ce que tu peux nous dire aussi, il y a tout un tas d'ateliers, de workshops qui se passent ici, à l'Ergue.
Du coup, ce matin, on a eu, par exemple, un workshop de Dimitri Rouskari, qui fait partie du label et du collectif Vlek, et qui a fait donc un workshop à partir des presses typographiques
En fait, c'était une presse typographique qui n'existe pas, mais il se pose la question du digital. Mais tout de suite, on va accueillir et je vais demander à Delphine de prendre place au micro. Delphine Obi, qui est aussi crieuse, donc deux crieuses déjà aujourd'hui, et qui a un workshop cet après-midi.
Oui, bonjour.
Bonjour. Ça va, on entend bien Delphine ? Oui.
Oui, donc j'ai été invitée au séminaire de l'Ergue pour parler de mon travail avec des élèves qui sont venus pour écouter. Et aussi pour voir qu'est-ce qui serait possible de faire cet après-midi autour des questions qui sont soulevées sur le séminaire. Autour de la post-colonisation. Quelque part, pour moi, c'est un peu le thème central et fort, intéressant, de ce séminaire. Et j'aimerais voir avec eux, après avoir discuté du processus de CRI au sein de mon travail, qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi autour de ce thème. Et voilà,
On parlait aussi de colonisation sonore.
Oui.
C'est pour ça que tous les ateliers sont axés autour d'un thème qui est celui du son aussi, dans ce processus-là de décolonisation. Et est-ce que tu peux nous dire, Delphine, comment tu en es arrivée à travailler cette forme qui est le cri ?
Je viens du théâtre. Et travailler dans les salles noires face à un spectateur, des spectateurs immobiles, ne m'intéressait pas. J'avais envie sur scène de savoir qui était assis en face de moi et j'avais envie que lui me dise et me raconte qui il est. Et c'est devenu beaucoup plus fort ce désir-là que celui de moi être sur scène. Et j'avais aussi envie de plus être sur les scènes conformes. J'avais envie d'être dans la rue, de dire la rue nous appartient. Dans la rue, on a le droit de dire ce que l'on veut. Occupons-la, prenons-la, emparons-la et posons des actes dans la rue. Guérissons-nous aussi au travers du cri. Pour moi, il y a une forme de une espèce de quand je crie sur une place publique, c'est aussi quelque part pour guérir. C'est pas moi qui guéris, mais le cri vient nommer des choses qu'on ne dit pas tout haut forcément, ou qu'on... Voilà, je...
Enfin, moi, quand j'entends ce mot « je suis crieuse », pour moi, je reviens à ces gens qui, enfin, où c'était peut-être plus développé avant, pour relayer des informations aussi, ou pour... C'était à un moment donné celui qui allait distribuer le journal, qui allait crier les titres, les informations. Et du coup, comment est-ce que tu te places par rapport à une pratique qui était... Cette pratique qui était avant ?
Oui, ben je me place en dehors. Mon moteur ne vient pas de cette tradition-là du tout. Il vient vraiment du fait de porter la parole de l'autre et non pas la parole du gouvernement ou du roi. Déjà, ça c'est... Et ni une parole, c'est pas une parole informative, c'est une parole émotionnelle que je recherche. C'est une prise de parole, c'est une prise du jeu. Voilà. Et c'est une...
Oui, ben voilà. Oui, que tu n'es pas juste un haut-parleur qui est là pour relayer.
Non, non, non. Et la particularité aussi de mon travail, c'est que je fais des cartes sonores de places publiques quand je suis en cri sauvage. Alors je fais de moins en moins de cris sauvages, mais je peux encore en faire peut-être, je ne sais pas ce que l'avenir nous dira. Mais les cris sauvages, ce sont vraiment des cartes postales de places bruxelloises. Je me déplace, j'ai fait, je pense, entre 15 et 20 places sur Bruxelles. Donc je ne suis pas le crieur public aussi traditionnel, il revient toujours au même endroit, devant les mêmes gens. C'est un rendez-vous, c'est... Moi, il y a quelque chose qui est très déplacé par rapport à ça. Je reviens jamais sur la même place. Ou alors, si j'y reviens, c'est différemment. Parce que j'ai beaucoup travaillé à la cage aux ours, malgré tout, sur 2 ans. Mais, enfin, voilà, oui.
Oui, du coup, tu es aussi à l'écoute du son de la place, de comment est-ce que les gens...
Oui, ce sont des cartes postales sonores, pour moi, des places. Je travaille 2 semaines sur une place. Et finalement, c'est ce que je vais vivre pendant les 2 semaines qui va devenir le cri de la place. Je ne pourrais pas juste mettre une boîte et venir au bout de 2 semaines prendre ce qu'il y a dedans. Et c'est pas du tout ça. Je fais un écrivain public, je suis très présente sur la place, je m'en imprègne pour après la transpirer le temps d'un cri, en fait. Et c'est ce que je disais aux élèves ce matin. Je disais le contenu de mon cri a très peu d'importance pour moi. Ce qui compte, c'est l'origine, le moteur de ce qui m'a donné envie d'être là et de crier sur cette place. Il y a une chose originelle comme ça qui fait que le cri, il est nourri au-delà des mots, en fait. Parce que quand on fait du cri sauvage sur les places comme ça, si tu demandes aux gens « Ah, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de crier ? Qu'est-ce que tu as vraiment sur le cœur ? Qu'est-ce que... » Et en fait, quand tu poses la question globalement à des gens, peu savent répondre, en fait. Il y en a peu qui arrivent à même sonder leur propre cri, à l'entendre. Et du coup, c'est ça que moi j'essaie de faire. Je rencontre beaucoup de gens et j'essaie finalement de... qu'on se rencontre vraiment un instant. Et peu importe le mot qu'ils m'ont donné, il ne dira pas les mots de leur cri, mais j'aurai eu l'énergie de ces gens, et c'est ça que j'essaie de retransmettre au travers de la voix et de la prise effectivement sonore d'une place.
Et puis j'imagine que ça doit être très différent dans un contexte où on est en ville ou par exemple à la campagne. Enfin, on a pas la même habitude d'entendre les sons. Moi, je sais que je viens d'une petite ville, et je sais que si quelqu'un se mettait comme ça sur une place, à d'un coup être très sonore comme ça, ce serait vu, entendu comme ça, d'une manière complètement différente qu'en ville, où là, il y a déjà une ambiance sonore qui est très forte. Et du coup, je comprends très bien cette manière de se mettre à chaque fois dans un contexte et d'écouter ce contexte-là et d'essayer de travailler à partir de celui-là. Est-ce que, Alex, tu as quelque chose à dire ?
Et moi, je voulais savoir, du coup, par rapport au workshop que vous effectuez avec les élèves, ça serait en fait essayer de peut-être leur faire comprendre, justement, ou genre, les amener à essayer d'exprimer ce qu'ils ont en eux à travers le cri, ou ça serait plutôt essayer de prendre, de s'imprégner du contexte, d'une situation particulière, et du coup de faire sortir ce cri-là plutôt de ce contexte particulier, plutôt que de leurs propres émotions, leurs propres envies ou ce qui les habite. Ce serait plutôt s'imprégner du contexte et d'en ressortir quelque chose.
Tout à fait. C'est ce que je leur disais d'ailleurs ce matin à un moment donné. Je leur disais, son propre cri, on ne peut pas le pousser nous-mêmes, en fait, quelque part. C'est un travail très, très complexe. Et c'est pour ça qu'on va tout à fait travailler dans un contexte. Et moi, je dois avouer, mais on va voir avec les élèves là où on a envie d'aller. Mais moi, j'ai beaucoup envie de m'adresser à Léopold II. Je pense qu'on a beaucoup de choses à lui dire. Et je pense que c'est un bon vecteur de se poser la question, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de dire à Léopold II ? Donc voilà, c'est peut-être cette chose-là qu'on va prendre, et on va regarder sans doute un extrait de film, si on a le temps, parce que c'est pas si easy. C'est un film
classique.
Documentaire fantastique, Enjoy Poverty, de mon Dieu, j'ai oublié son nom aussi. Enjoy Poverty, en tout cas, vous trouverez ça vite.
Et puis tu auras aussi la possibilité de le rementionner, parce qu'on te retrouvera à 16h, 16h15 avec du coup les élèves qui seront présents à ton workshop.
Voilà.
Merci beaucoup, Delphine.
Merci à vous.
Et du coup, on va enchaîner aussi sur... tu avais quelqu'un à inviter, non ? Peut-être on peut... Ah, d'accord. Bon, du coup, on n'invite personne et on continue, et on va annoncer ce qui va se passer de cet après-midi. D'abord, en fait, vous avez pu entendre en fond sonore déjà de la musique. On va, grâce au studio volant, à la radio volante de Panique, pouvoir diffuser ce qu'il se passe dans la pièce à côté. Et dans la pièce à côté, c'est un atelier de kuduro, donc de danse. Et vous aurez le plaisir d'entendre ses corps danser. Et puis on enchaînera avec une rencontre avec Thomas Lutumbwe, pour continuer avec un live aussi avec un atelier volant de Tropicantesimo, qui sont en plein installation sonore, vidéo, dans une salle aussi à l'Ergue.
Puis à 16h30, on aura une rencontre avec Sarah Washington pour ce double Earth Radio, et donc un workshop qui s'articule autour de la radio et de l'usage des différents matériaux de la radio.
C'est ça, on va apprendre à construire des radiotransmetteurs.